25 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 13 janvier 2007 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui ?
Maintenant !
Le supplément week-end avec l'actu BD, DVD, télé et suivi...
C'est suivi de... Voilà.
Oui, c'est parce que j'avais laissé un bout, un reste de la précédente... Ça c'est du sport à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite ?
Oui, à 15h du mix avec un gros Larsen, et non je me suis trompé, c'est cette transmission bien sûr, avec c'est pour ça qu'il y avait un Larsen et tout ça, à 16h c'est le potager, 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 20h les Hétéro Experience, 21h30 Stay Tuned jusqu'à 23h minuit je crois, et si... vous nous écoutez sur FMR, et ben vous nous écoutez en FM sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Ouais, je me suis un peu planté là.
La French Independent Radio Label since 1981.
Bah non, je me suis pas réveillé, ça arrive quoi.
Et il est temps qu'on change de musique d'intro quand même.
Ouais, ouais,
parce que là, tu t'es plus du tout calé, c'est pas ce que, c'est plus comme c'était avant, hein.
Ouais, bon, d'accord, mais promis, bientôt, très bientôt, il y aura ça. Mais plus tard. Et c'est la 98e, donc on changera d'habillage, promis juré, pour la 100e, ce sera toute neuve, ce sera dans 3 semaines, puisque nous, on sera à Angoulême dans 2 semaines, donc on va décaler d'autant.
Oui,
ouais, on va laisser du sport faire une émission complète pour une fois et puis voilà, mais en attendant on est encore un peu alourdi par la galette de la semaine dernière, vous allez voir l'émission va un peu ronronner aujourd'hui, ben tiens. Allez, Another Chance de Roger Sanchez.
Thank you.
va commencer les chroniques bande dessinée du supplément week-end de Radio FMR cette semaine avec quelque chose qui ne respire pas franchement la joie de vivre et qui justement, ben, c'est un peu pour ça que j'ai passé le Another Chance de Sanchez. Voilà, en plus, je puis son nom à chaque fois. Inio Asano, Un monde formidable, le premier tome vient de sortir dans la collection Made in Shikana, qui est une collection plutôt adulte. Et c'est une galerie de portraits, par exemple un ancien rocker qui regrette de ne pas être resté dans son groupe avec sa guitariste. Un collégien qui se fait battre tous les jours par des soi-disant camarades, qui en plus est délégué de classe. Une lycéenne qui attend un enfant d'un de ses profs. Un truand qui a braqué une fortune déguisée en ours. Des enfants qui jouent au freinage de la mort juste avant le grand saut. Quel pourrait être le lien de ces destins qui semblent voués à l'extinction brutale ? Ce sont des petites histoires individuelles, des vies qui sont à deux doigts d'échouer dans la sacro-sainte réussite sociale. Comptez chacune dans une vingtaine de pages, et a priori sans réel lien entre elles, sauf que entre chaque histoire, il y a une case, deux cases qui... Sinon, de savoir qui a vraiment envie de se suicider ou qui, finalement, a encore envie de se raccrocher à la vie. Des jeunes dans une société vouée vers la docilité, la performance et la normalité. Des enfants déchus qui vivent presque en marge, surtout de petits boulots, et à l'espoir plombé, de rêves brisés, dans l'ombre des grandes cités froides et déshumanisées. Si le livre est surtout constitué de dialogues, certains plans montrent une maîtrise du cadrage assez cinématographique, mais c'est un livre contemplatif, rempli de mélancolie, mais d'un zeste d'espoir. Si pour vous, manga, c'est synonyme d'action et de baston, vous allez vous faire chier. Par contre, si un spleen obscurcit votre vie, ce livre pourrait, à défaut de vous éclairer, au moins vous laisser entreapercevoir quel monde formidable nous entoure. Bah oui, finalement, comme quoi, un monde formidable. Le premier tome de cette nouvelle série de Inio Asano a été traduit en France aux éditions Kana dans la collection Made In. Jiro Taniguchi au dessin. Ah oui, je sais, on en parle souvent, mais c'est considéré comme l'un des maîtres du manga actuellement par sa maîtrise graphique. Et comme les autres bouquins où en général il veut parler de choses qui sont assez précises, et là il s'agit d'une bande dessinée en costume et même d'un personnage historique, il s'est fait aider de Yoshiharu Imaizumi pour se documenter sur cette période, celle de la conquête du Grand Ouest du Nord américain. Le tome 2 s'appelle Le Jeune Garçon et le Lynx, il vient de sortir dans la collection Made In chez Kana. Et c'est la suite de la bio dessinée du co-inventeur du scoutisme. Vous savez, avec Baden Powell, sauf que lui, c'était plus un civil. Cette fois, c'est la jeunesse d'Ernest Thompson Seton qui est narrée, l'une des expériences les plus traumatisantes dans l'Ouest sauvage qu'il ait vécu dans son enfance. Être isolé dans une cabane, terrassé par une fièvre maligne et avec un fauve affamé qui tourne autour de vous. De rappeler que Ernest Thompson Seton est un naturaliste très connu aux États-Unis et qui faisait de superbes travaux d'illustration, mais aussi c'était un véritable conteur de la vie animale qui a énormément inspiré justement Disney dans toutes ses séries animalières. Un lynx femelle peine à trouver de la nourriture suite à une année désastreuse. Les lapins furent décimés après une épidémie et des crues rendent les poissons inaccessibles. La famine qui lui tiraille le ventre est aggravée par le fait qu'elle vient de mettre bas. S'occuper de ses deux petits lui prend du temps sur sa chasse, rendant plus ardue la quête de nourriture. Les cris et les odeurs inconnues des poules vont attirer le fauve près des humains qui se sont installés de l'autre côté de la forêt. Là-haut, dans le Manitoba, au sud du Canada, la confrontation entre l'animal aux abois et les humains va être inévitable. On ne peut que louer les talents du dessinateur Taniguchi quand il s'agit d'illustrer la nature. Mais par rapport à son encyclopédie des animaux de la préhistoire, qu'on a chroniqué fin décembre, la série s'étonne, joue moins sur la personnalisation des animaux. C'est-à-dire que ceux-ci, on ne leur exprime pas des pensées, on ne leur fait pas dire des choses. Non, c'est juste à la limite le narratif qui tente de guider un peu le lecteur vers quels sont les sentiments réels de l'animal ou de son instinct. Ils en semblent plus vrais, plus vivants, plus motivés et parfois plus inquiétants. Car après le loup du premier tome, c'est encore un fauve dangereux qu'affronte Seton dans un long face-à-face où chacun s'observe. De l'observation de la nature, un mélange entre respect pour la faune et l'esprit trappeur vont en sortir le mouvement scoutisme, le manuel des castors juniors et la longue tradition du bizutage des louveteaux. Non pas celui de laisser le gamin seul dans le noir d'une forêt, mais celui de le faire dormir nu dans la neige, l'habit au cirage. Cette gosse, ils n'ont rien compris. Seton, le tome 2, s'appelle Le jeune garçon et le lynx. C'est dans la collection Made in Shikanas. Jiro Taniguchi au dessin et au scénario, et aidé au scénario de Yoshiharu Imaizumi.
Tu disais tout à l'heure que la précédente manga dont tu parlais, que c'était pas pour les amateurs de baston et de bourrinage, là non plus. Hein. Parce que là, en fait, on en parle à chaque fois, mais Taniguchi, c'est pas un mec qui dessine comme Toriyama avec du blanc et du noir. Là, c'est tout gris. Il faut apprécier.
Ah, c'est énormément de trames, de dessins. C'est un dessin qui est très très fin, qui est très précis. Là-dessus, d'ailleurs, il est très fort pour dessiner la flore. La faune là-dessus, il arrive beaucoup mieux que dans les animaux de la préhistoire, je trouve. Aussi parce que là, c'est pas des animaux qui ont disparu. Il a des photos et tout ça, et c'est très vivant. C'est impressionnant. Hein. Il y a vraiment une observation. Les personnages ressemblent plus aux traits manga, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on va retrouver. Hein.
Sauf que moi, ce qui m'éclate chez ce mec, c'est qu'il fait toujours des têtes des personnages. On dirait qu'il a toute la misère du monde qui est sur eux. Quand il fait Quartier Lointain ou Journal de mon père, c'est toujours des cadras qui disent « Oh, j'ai raté ma vie, il faut que je... Ah tiens, mon père, je l'ai pas connu, il faut que j'aille sur les traces de son enfance et tout. » Et là, c'est pareil, c'est le gamin, il passe au lynx sur la couverture, il dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais bouffer
!» C'est méchant, mais c'est tout à fait réaliste. Toujours la chronique bande dessinée, il est 12h17 sur la poubelle des radios, éphémère, c'est le supplément week-end avec Thomas et du sport qui va pas tarder, j'espère. Allez, là c'est moi, c'est pas Thomas qui fait sortie BD. Attends, là on va s'orienter vers de l'horreur pure et dure. Quelque chose d'absolument ignoble.
C'est ignoble.
Ah, c'est affreux.
C'est affreux, c'est horrible, c'est bouleversifiant. Alors, ça fait quelques temps que je vous...
Non, c'est moi.
Ah, c'est toi, merde.
Mais je t'avais dit que j'avais une BD. Attends,
mais oui,
je suis pas planning.
C'est horrible.
Ah oui, mais c'est affreux, c'est pire que ça, c'est le dernier Clark.
Ah, d'accord.
Mister President, le tome 3. Time Machine, c'est dans la collection 3ème degré qui est la collection humoristique du Lombard. Et c'est le troisième opus du magnifique essai de Politique Réalité. Que risque de devenir la planète avec un crétin cogénital comme président de l'unique superpuissance? avec un soupçon de science-fiction et de paradoxe temporel, puisque dans cet album, par la puissance des fonds secrets, il a le pouvoir de remonter dans le temps, histoire de rencontrer des gens importants de l'histoire. Bon, celle des États-Unis, l'histoire, hein, ça se limite à 250 ans, à peu près. Ben, ça fait déjà pas mal de dégâts. Car si le président est face aux problèmes issus d'un siècle d'impérialisme forcené, causé par des gens plus intelligents que lui, les remèdes qu'il applique aux causes sont parfois pires que les conséquences. Du réchauffement climatique à l'extinction de la biodiversité, rien ne sera épargné à une humanité qui n'a demandé qu'à recompter les voix de la Floride. Et comme le pognon des lobbies est toujours plus fort que... Ok, non, pardon. Excusez-moi, c'était une erreur. Non, pitié, pas Guantanamo. Non, promis juré. Grâce à la sagesse éclairée du président, les velléités de domination du monde mondial par les crypto-communisto-juivo-pakistanais vendeurs de drogue contrefaite sont repoussées dans leurs ultimes limites. Et en plus, ça nous fait rire. Mais ça n'est pas tout. On apprend plein de choses dans cette série grâce aux fiches révision du bac. La biographie des personnages historiques, que ce soit Cluster ou Henry Ford, des résumés des fameux CIA facts qui sont de sérieuses sources de renseignements. Non, ça n'est pas l'humour. Vous allez sur cia.gov. Eh ben, vous avez des... Vraiment, il y a des bibliothèques complètes d'informations qui sont librement disponibles au public. C'est très intéressant. Comme quoi, c'est une agence de renseignement. Le tout agrémenté d'exercices pratiques et de travaux manuels. Un livre indispensable à acheter si la série à la Maison Blanche vous fait rire, mais encore moins que Spin City. N'empêche que face aux démocrates, les républicains sont nettement plus flippants quand même. Clark, le tome 3 de Mr. President, Time Machine, c'est dans la collection 3ème degré chez le Lombard. L'arrivée de Du Sport vous était commentée en 16/9 et en couleur. Thomas, faudrait que tu m'expliques pourquoi je fous l'intro cinéma alors que c'est un DVD, mais surtout au départ c'est un téléfilm.
Ouais. Bah DVD. Ouais, je parle aussi des DVD. Hein. Et bon, puis il faut que je t'explique aussi que en fait même si c'est des téléfilms, c'est surtout des réalisateurs de cinéma qui font ces téléfilms de la collection Masters of Horror. Alors, on a déjà parlé ici du Masters of Horror de Carpenter, d'Argento, de Lucky Mackie, de Don Coscarelli, de Toby Hooper. Et bien, cette fois, c'est au tour de celui de John Landis qui a réalisé le téléfilm Masters of Horror intitulé La Belle et la Bête, Dear Woman en VO. Dear Woman, ça veut dire la femme biche. Et ce Masters of Horror, quoi qu'il raconte, c'est. En fait, ça raconte l'enquête d'un flic spécialiste des animaux. Des animaux dangereux et à qui on confie une enquête assez spéciale puisque c'est l'histoire de deux mecs ou de couples qui sont piétinés sauvagement, il reste que de la bouillie, par des pattes de biche et les témoins disent qu'il y avait une femme avec. Et la femme, on n'a aucune trace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Masters of Horror est tourné sur le temps de la comédie, donc on peut voir dans quelques scènes hilarantes le flic en train de se torturer les ménages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme qui est venue avec une patte de biche pour les piétiner. C'est un cerf un cerf géant de 1m80 habillé en bûcheron qui est venu tabasser le mec pour prendre sa nana. Qu'est devenue la fille? Exactement. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est ça. On est en plein dans les épisodes d'X-Files. Sauf que dans les épisodes d'X-Files, c'est toujours un prétexte pour s'intégrer dans les, pour plonger dans les coutumes des vieilles traditions indiennes, mexicaines, etc. Avec toujours oui, le monstre de la légende. Ben en fait, c'est pas une légende. Il est bien réel et tout. Là, c'est pareil, sauf que ben on s'est mis pas vraiment dans la culture amérindienne puisque la femme biche est une mythologie de là-bas. Mais c'est surtout prétexte pour essayer de voir comment réfléchissent les flics confrontés à un truc qui est assez paranormal. Alors on rit. Il y a même une référence assez rigolote de John Landis à, sur un film qu'il a lui-même réalisé un peu plus tôt, c'est Le Loup-garou de Londres. Puisqu'il y a un truc qui dit à un moment donné.
Ah, c'était lui qui avait fait cette bouse.
Il dit bon, il est pas si bouseux, c'est le loup-garou de Paris qui est tout naze.
Ah, pardon, excusez-moi, je comprends.
Et donc le flic il dit ouais, ça me rappelle cette histoire où il y avait. Alors l'autre il lui dit mais pourquoi tu penses que c'est une biche humaine? Il faut bien te rappeler, tu sais, il y a à Londres quelques années, il y a eu une espèce de loup-garou là qui s'est hissé, donc c'était assez rigolo, il paraît, l'autoréférence. Voilà, le film, bon, il est sympathique, tu ris, c'est pas aux éclats. Par contre, l'intérêt du film, c'est bon, c'est le casting. Parce que outre Brian Benben, bon, c'est le mec qui fait le flic. Bon, voilà, bon, il s'en sort bien. C'est surtout la femme biche, en fait, qui vole des tours. Parce que, bon, l'actrice Cynthia Moura, c'est, on va dire, c'est une top modèle. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, la femme biche? Eh ben, elle monte ses seins au mec avant de le pétiner. Toujours intéressant puisque comme elle bute pas mal de mecs dans le film, bon.
Elle montre souvent ses seins, c'est ça ce que tu veux dire?
Ah ben je te laisse déduire ce que tu veux, hein, Xavier.
D'accord.
Oui, effectivement.
D'accord. Sabrina a été très vexée, je suppose, que tu regardes ce film avec
passion. Ah non, pas du tout, puisque c'est un film d'horreur. Sabrina, elle aime pas les films d'horreur et puis en plus elle était malade, donc bon, c'était un prétexte. Hein.
D'accord. Heureusement qu'elle écoute pas cette heure-ci. Hein.
Ah si si. Bon. Je vais faire taper en. donc voilà. Ouais,
c'est qui la fille?
Cynthia Moura. Ça s'écrit Moura, M-O-U-R-A. Je la connaissais pas du tout. Alors, il faut dire que dans le film, à part montrer ses seins et marcher avec une démarche un peu féline et tout. Féline, bon, c'est une femme biche, c'est pas vraiment le mot, mais à part ça, le bon jeu d'acteur, c'est fait des gros sourires au mec avant de la tirer dans son pieu et puis hop, la bouillie. Mais donc, après, on lui demande que ça. Hein. Alors, après, c'est à toi d'après d'aller voir sur internet un peu ce qu'elle a fait avant. Voilà. Visuellement, dans l'image. Voilà. Bon, alors, il s'agit du Masters of Horror réalisé par John Landis, qui s'appelle Dear Woman. La Belle et la Bête en VF, c'est du. On va dire qu'il est dans la moyenne, plutôt dans le bon que dans le mauvais pour l'instant. Dans ce que j'en ai vu 5 sur 13. Bon, ça va, il tient la route. C'est réalisé par John Landis, qui a fait pas mal de classiques du film de fantastique, etc. Il a fait quelques merdes aussi, comme le film de Beverly Hills 3. Mais bon, dans le très bon, c'était la route de Londres. Qu'est-ce qu'il a fait du sport aussi?
Trading Places, à la comédie là, avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Tu sais quoi, ils échangent de place.
Un fauteuil pour deux.
Voilà,
avec, ouais.
Ouais, et puis il avait fait encore plein de trucs, hein, de toute façon. Quoi. Mmh.
Bon, ben voilà.
Il avait fait un épisode de la quatrième dimension, le film aussi. Oui. Hein, et puis bon, comme les quatre sont bons, de toute façon, on peut dire que c'est une réussite aussi, quoi, de toute façon. Quoi. Mmh.
Bon, eh ben, très bien, du sport est revenu. J'ai fini ma chronique. Ah non, j'ai pas fini ma chronique DVD.
Si
je sais que Xavier avait un quiz concernant la BD de Clark, Mr. President. Est-ce que tu veux la caser?
Non, parce que là on va avoir la pub donc d'ici 2 minutes. Donc je préfère prendre les devants et dire oui, allez-y, coupez-nous par la pub, coupez-nous. Parce que après tu y connais et tout. Allez hop.
Allez, coupons-nous. Faisons nous couper.
Coupons.
Bah, allez-y, la régie finale.
Le Pinkadelic à tous sens vous propose la soirée Déclic électrodinatoire le samedi 13 janvier avec le live électro des Spirit Catcher, duo de plus en plus prisé sur tous les dance floors d'Europe, The End, Ministry of Sound, Barcelone, Berlin, etc. plus DJ Fritz et Mr. H. Performance vidéo du VJ Beatmap, ancien résident des clubs parisiens et de retour d'une tournée en Asie. Pour débuter la soirée, les Fabuleux Festins vous proposent son buffet dînatoire à partir de 21h, after 6h à midi avec DJ Diego et Samy. Repas 20 plus soirée 28€, entrée seule 8€, info plus Reza 06 71 31 43 38, Pinkadelic, Cyril Amélie.
éphémère.
Bah, je continue ma chronique DVD du coup.
Ah bah oui. Non mais c'était... Non, on s'excuse, hein, vous n'êtes pas sur Fun Radio ou NRJ, vous êtes bien sur FMR 89 points.
Alors je me suis dit, tiens, j'ai pas vu trop de films cinéma aujourd'hui, puisque, enfin cette semaine, parce qu'en plus j'avais promis à du sport qu'on irait voir Happy Feet pour faire une spéciale film de gosse, mais on n'a pas eu le temps. Sabrina a une grippe, donc on n'a pas pu y aller.
Plus fort que le mioche.
Alors à la place, je vous ai préparé un petit planning sur les sorties DVD du premier trimestre 2007, histoire de se mettre l'eau à la bouche. Alors j'ai pris que les trucs qui m'intéressaient, donc je vous avertis, c'est purement subjectif. Voilà. Alors sorti hier, là il y a une pub monstrueuse dessus. Je me suis dit c'est pas très utile de revenir dessus, mais malgré tout si quand même, puisqu'on a parlé du film quand il était sorti sur cette antenne, et puis c'est toujours bien de pour les auditeurs qui auraient chopé l'émission en MP3 sur le net, s'ils veulent se faire une idée. Donc il s'agit de Superman Returns en DVD qui sort chez Warner en édition simple, en collector ou en prestige, c'est selon. avec Brandon Routh, c'est réalisé par Bryan Singer. Vous pouvez aller le voir, le scénario est assez original par rapport à la série. Ça s'autorise quand même quelques...
C'est une suite directe du premier, hein. il faut signaler.
Du premier ou du 2? Parce que le deuxième aussi avait été réalisé par Richard Donner. Je crois que c'est du 1, ouais.
Non, c'est le 1.
Ouais. Voilà, donc Superman Returns, nous on avait bien aimé en tout cas.
Ouais.
Il valait le coup.
Voilà.
Pas à dire.
Ensuite, on va passer à
le générique qui tue, quoi.
Ah bah oui,
le générique tue, de toute façon.
Assez rétro, mais réactualisé.
Bien, très très bien.
Alors, on va continuer avec du DVD HK cette fois. Avec le 19 janvier, c'est-à-dire dans une semaine, sort Les Contes du Sabre numéro 2. Alors, Les Contes du Sabre numéro 1, c'était un coffret réunissant deux films sur le sabre. Donc, il y avait The Swords et Duel to the Death, je crois. Je suis pas sûr du deuxième, mais c'est sûr qu'il y avait The Swords, puisque c'est le seul que j'ai vu pour l'instant. Alors, Les Contes du Sabre numéro 2... ça comprend deux films également, deux films de 1992 qui sont Le Poison et l'Épée, réalisé par Poon Man Kit, qui avait réalisé Shanghai Grande avec Leslie Cheung, et ainsi que Succession par l'Épée, toujours de 92. C'est un film de Eric Tsang. Alors Eric Tsang, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est le mec qui avait fait Malmission 1 et 2, et il jouait surtout le parrain dans Infernal Affairs. C'est-à-dire que c'est le mec, il est aussi bon acteur que réalisateur, c'est...
Ouais, c'est le gros, là.
Oui, le gros avec les cheveux blancs.
Oui, ouais. Mais c'est un habitué, d'ailleurs, hein, dans les polars de Hong Kong, c'est un habitué soit des rôles de flic, soit des rôles de
gangsters.
De gangsters bien pourris, genre patron et tout.
Tout à fait.
C'est le type, la cérémonie dans la scène d'ouverture, là.
Oui.
Le boivent le thé et tout, voilà, l'incronisation des...
Exactement.
Voilà.
C'est bien, tu as bien retenu le film.
Non, mais je connais sa bouille. Hein, tout
Toujours le 19 janvier, il sort le même jour. Alors peut-être que ça va parler plus à Xavier. Il s'agit d'un... Bon, j'ai commencé par les infos qui te diront peut-être rien. C'est un film d'animation de Hirotsugu Kawasaki de 1998. Ça raconte l'histoire d'un homme aux capacités surhumaines qui rejoint un corps d'élite. Et ça s'appelle Spriggan. Et ça a été supervisé par Katsuhiro Otomo. Et ça sort toujours chez HK Vidéo. Alors depuis le temps que c'était annoncé, puisque c'était sorti en 98, il a toujours été inédit chez nous.
Mais ça c'est du bourrin quand même.
Ah ben alors moi j'ai pas vu, mais effectivement j'ai les images que j'ai vues, oui, ça a l'air
ça,
assez...
Ça renvoie.
C'est l'explosif, ouais. Alors de toute façon, quand tu vois du Otomo, hein, ça peut pas être autre chose que du désengage en série, hein, de toute façon.
Si.
Ah vas-y.
Si. Il avait fait une histoire courte dans Memories qui était plutôt sympa.
Mm-hmm. Ouais. Il y a rien qui explose dedans.
Ah peut-être, ouais. D'accord, je sors.
Alors toujours là on va rester sur les plannings DVD qui vont sortir chez HK. Et en mars on aura Princess Changping de John Woo, film qu'il avait fait, c'était dans la transition de l'opéra de Pékin avant qu'il soit connu avec ses néo-polars.
Ouais, c'est les films de sabre qu'il a fait dans la période 60 à la suite de son boulot. Il a bossé avec Chang Cheh, avec les plus grands donc comme assistant, et ses premières réalisations en fait, hein, c'était ça découlait naturellement de son expérience passée. Donc ça a été ses films de sabre en costume traditionnel,
tout blanc ou tout noir,
vachement bien quand même. Hein. Ouais. Il y en a un ou deux, je me rappelle pas exactement, il y en a un qui est vraiment bien, quoi.
Et d'ailleurs, j'avais vu sur les cahiers du
La période Cirque. De 70, enfin 75-80, quoi.
Ouais, en fait. Ouais, le syndicat du crime est arrivé en 84, donc c'était juste avant. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote concernant les cahiers du cinéma, puisqu'il y avait un jeune journaliste qui bossait aux cahiers du cinéma avant, qui s'appelait Olivier Assayas, qui est devenu connu depuis, ouais. Et qui avait chopé un LaserDisc où il avait vu Princess Changping. Il dit, tiens, cette actrice qui joue dedans, elle a l'air pas mal et tout, Maggie Cheung, il faut s'en souvenir et tout, et finalement il s'est marié avec elle.
Ouais. Et il s'est séparé depuis. Hein.
Voilà, mais du coup, voilà. toujours en mars et toujours chez HK, il y aura Phantom Lover de Ronnie Yu avec Leslie Cheung qui s'est défenestré depuis, donc c'est regrettable. C'est une des productions avec Leslie Cheung qu'on peut encore voir. Retour dans le temps, puisque ça c'est fini pour HK, on revient à plus près de nous. Au 24 janvier sort La Colline à des yeux d'Alexandre Aja, yeah. Dont on avait parlé ici, et qui vaut, voilà, c'est un film à voir la lumière éteinte. Et ça fout quand même les jetons, même le générique il est vraiment atroce sur les mutations nucléaires chez les gamins et tout. Ah, c'est horrible. Tiger Blade, qui sort chez Europa. C'est les efforts d'Europa pour essayer de sortir des films thaïlandais après Tony Jaa chez Ong Bak et tout. On a un nouveau film thaïlandais de baston qui sort le 24 janvier, réalisé par Teratorn Sirivaraporn. Voilà, j'ai réussi à le...
Il a réussi à le dire.
Voilà. Oui. Et Sabrina qui m'avait dit, je parie que tu pourras pas réussir. Si. 15 février, coffret Rob Zombie. La maison des mille morts,
non.
Avec The Devil's Reject.
Ah, bah voilà.
Collector de DVD pour The Devil's Reject. Donc ça peut être assez intéressant au niveau des bonus.
Ouais.
Voilà. 22 février, Miami Vice, édition simple et édition collector au choix chez Universal. Ça va être du lourd aussi, puisqu'on sait qu'il y a un Director's Cut qui va être disponible et qui n'était pas sorti en salle. 6 mars, alors là, ça va être l'objet d'une spéciale. Le 6 mars. Sort un film, un numéro 2, célèbre, une suite d'un film qui avait été culte à son moment de sortie, qui l'est toujours. Mais le film, la suite est toute pourrie. Mais ça vaut quand même le coup de faire une spéciale autour de ça.
J'adore ces effets quand ils.
Chez Opening, ce film qui date de 91, Highlander 2, Director Scott.
Ouais, ouais.
Avec Michael Ironside qui chevauche des frisbees volants.
Sacré Michael.
Voilà, où on apprend que ben voilà la poésie du 1 en fait on est immortel et on peut pas mourir à part de couper la tête et tout. Et ben dans le 2 on apprend qu'ils viennent sont des extraterrestres qui viennent de la planète Zeist.
Autant le premier était génial, autant.
Ouais mais attends parce que dans le 3 avec Mario and People tu vois.
Ah oui on touche le fond.
Le descendant d'Attila, ça l'a fait bien aussi tu vois. Ça l'a fait bien aussi, hein, y a pas de problème.
Voilà. Alors petite pensée pour Manu qu'on accueillera pour nous parler de tous ces chefs-d'œuvre. Et alors le même mois sort Vercingétorix. Alors je me suis dit
ah non,
c'est bien, il faut une spéciale thématique autour de ça. Mais en fait, détrompez-vous, il s'agit d'un documentaire produit par Arte de Jérôme Prieur.
J'ai eu peur.
Pas pareil. Je
me suis dit tiens, il y a une constance, une cohérence et tout. Non. Et on va finir juste avec quelque chose de plus cultureux. Le 20 mars sort Histoire de cinéma de Jean-Luc Godard. C'était l'espèce de vidéographie qu'il avait fait pour où il reprenait des extraits de films célèbres, qui était aussi l'occasion pour lui, de, avec son langage particulier, hein, de parler de l'histoire de cinéma avec des extraits de Shining, etc. Ça sort chez Gaumont Vidéo et c'est disponible en 4 DVD, coffret 4 DVD. Donc ça va être du lourd, puisqu'il faut savoir que Histoire du cinéma dure au moins 4 heures.
C'était produit pour la télé suisse, hein, pour la télé suisse romande, me semble-t-il, en coproduction. Et ça a déjà été diffusé, je crois, sur Arte, mais il y a pas mal de temps, il y a très très longtemps, au début d'Arte.
Ouais. Et je vais finir la chronique cinéma, puisque DVD cinéma, si c'est possible, avec la revue de presse, puisque j'ai un petit magazine que j'ai amené, c'est Studio, puisque
le chrono est prêt.
Studio petit par le format évidemment, puisque Studio sort en petit format comme Ciné Live d'ailleurs. Et il s'agit du numéro de Studio numéro 230, et en petit format il ne vaut que 2,50€. Alors de quoi parle-t-on? Ben en couverture il y a Catherine Deneuve avec Russell Crowe, Ben Affleck, tout ça, bon pas très intéressant. Mais à l'occasion de la sortie des Infiltrés, de Élection 1 et 2 de Jonito et de Truand de Chandler Clare, Studio s'est mis à faire un petit panorama des mafieux célèbres au cinéma. qui dit panorama dit classement, et qui dit classement dit top 5.
Ah. Attends, c'est un quiz ou c'est un top 5? Tu m'as dit que c'était un quiz.
Alors, je vais dire, c'est un top 5, et il va falloir deviner les entrées.
Ah!
Ah,
d'accord,
t'es piégé.
Okay. Ah oui, oui, non, parce que moi j'avais le nouveau chrono qui était prêt à être lancé.
Ah, dommage.
Donc,
Non, non, mais c'est top 5 quand même.
D'accord.
5. Numéro 5.
Alors, en numéro 5, je vous dis les noms des mafieux, vous allez devoir reconnaître le film et l'acteur. Si je vous dis, alors là je commence par du film un peu plus underground, mais avec des réalisateurs un peu cultes. Si je vous dis Frank White,
ouais,
le mec, c'est dans un film d'Abel Ferrara.
Ah,
Le King of New York.
Voilà, ouais. Et c'est Christopher Walken.
Christopher Walken, ouais.
Un autre film qui est pas américain.
Numéro
5. Ouais, Ex Aequo. Toujours Ex Aequo.
D'accord.
C'est un film japonais. Le parrain s'appelle Aniki Murakawa. Ça se passe sur la plage.
Japonais. Ah,
Sonatine,
oui.
Tout à fait, bravo. De
Kitano.
Voilà. Ensuite.
Numéro 3.
Non, numéro 4, puisqu'il y avait deux ex-aequo et c'est pour.
4.
Pour parler de plus de parrains, en fait. Alors, bon, là c'est facile. Hein. Si je vous dis François Capella, Rocco Siffredi.
Rocco Siffredi
Les Borsalino, voilà. Borsalino.
Oui. Exactement. Ensuite, on va passer.
Numéro 3.
Voilà. Alors là, bon, c'est facile aussi. Si je vous dis le nom du parrain, ça va être trop facile. Donc, je vais dire plutôt un film qui est sorti en 87 avec Kevin Costner, avec Sean Connery, Andy Garcia, Les Incorruptibles et le parrain.
Ah, punaise, oui.
Numéro 2.
Attends,
le parrain,
c'est qui?
Et le parrain, c'est qui? Moi, je me rappelle surtout de Frank Nitti, Billy Drago, quoi.
Ah, moi, le parrain, c'est Al Capone. C'est Bob De Niro.
Ouais,
Ouais,
c'est vrai.
Ouais.
Numéro 2.
Numéro 2.
Il m'énerve le coucou derrière. Ensuite, on a un mec, si je vous donne le réalisateur ou le nom, ça va être trop facile. Donc, dans la vie, je crois en deux choses. La parole et le manche. Si t'as le manche, tu réussis.
Il était une fois en Amérique?
Non. Même si le parrain était une fois en Amérique, il est classé dedans. Pas dans mon top 5, mais dans le classement de studio. Alors, le manche.
C'est.
L'un est dur comme le fer, l'autre est d'acier.
Ah punaise.
The World is Yours. Avec Michel Pfeiffer.
Eh bah oui, c'est le grand, c'est le
Scarface.
Ah, punaise.
Ouais.
Il y a
eu Tony
Scarface.
Montana.
Ouais, Tony Montana, ouais.
Ok.
Et numéro 1.
Numéro 1.
Je vais vous faire une proposition qu'il n'y pourra pas refuser. Avec des trucs dans les joues, là.
Ouais, bien sûr.
Oh, c'est l'original.
The Godfather.
Voilà.
Marlon.
Voilà.
Marlon.
Don Vito Corleone. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour le top 5. Sachant qu'il y avait aussi dans le classement, il y avait Max Berkovitch de Il était une fois en Amérique. Il y avait.
Ça, c'est James Woods.
Oui, James Woods, exactement. Il y avait Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens. Il y avait Zetoun, Raymond Béthoun.
Ouais, ils oublient un petit peu les plus anciens, ceux qui ont été à l'origine. Hein. Je dirais Edward G. Robinson. Il y a également. Je voulais dire, comme qui a joué le rôle d'un parrain, il y a également. Je l'ai sur le bout de la langue, ça va m'en venir. Dans les vieux, hein, je veux dire, hein, ouais. dans les très très vieux, quoi.
Il y avait le vieux Scarface avec Mooney.
Paul Mooney également, ouais. Et le troisième, j'oublie, quoi. C'est le meilleur.
Là, je suis
mon préféré.
Je te suis d'aucun secours, j'ai pas la mémoire là.
Sinon, dans les plus récents, ils parlent aussi de New
James
Jack
Cagney,
City.
Voilà.
James Cagney, voilà. Ils parlent aussi plus récemment de New Jack City avec Wesley Snipes, John Lone dans L'année du dragon. Voilà, bon. Voilà, c'est un classement totalement arbitraire et comme du sport l'a souligné, ben effectivement, ça prend en compte que les parrains les plus récents, mais bon.
Ouais.
Toujours bon studio, voilà, comparé à des magazines un peu plus fun comme Score, voilà, moi je préfère Score, hein. Mais voilà.
du sport, avant qu'on fasse une coupure musicale, je voudrais savoir, est-ce que tu sais ce qu'il y a demain soir à la télévision, si je me trompe pas, 20h, sur Fox?
J'ai regardé, moi, je me rappelle pas, je t'avoue que je me rappelle pas du tout.
Il y a la saison 6 de 24. Ah. Et tu sais quoi? Elle est déjà dispo sur le net par le biais du piratage et il y a même les sous-titres français. C'est effarant. C'est-à-dire avant même la diffusion de la nouvelle saison, elle est déjà disponible sur le net.
Oui, mais sais-tu qu'à côté des États-Unis, il y a un pays qui s'appelle le Canada, dont une grande contrée est très largement majoritairement francophone. Hein. Donc les choses vont très très vite avec le net, y compris les doublages et y compris les sous-titrages, hein, tu sais.
Mais là, je crois que là.
Ne t'en fais pas.
En fait, c'est un sous-titrage pirate qui a été fait justement à partir des fuites, enfin les quatre premiers épisodes, voilà. Donc, je vous rassure, Jack Bauer est de retour et il doit mourir.
Oh les boules.
Encore.
Encore, oui.
Et parce qu'il est déjà mort, hein.
Ouais, ben je ne sais pas, mais à mon avis.
Mort et ressuscité avec des électrochocs.
Complètement à part, et ce n'est pas de la fiction, il y a ce soir une soirée au Vent du Sud à partir de 19h. C'est contre le projet de loi prévention de la délinquance. 6h contre la délation et avec les groupes, c'est pas n'importe qui. Il y a L'Air de Rien, Boom Club, Alice Sound System, il fait plutôt du rai raga. Les Bublis, c'est de pop rock. Il y a Princess Not Dead, c'est du punk. C'est un peu petit, hein. Je vois pas ce qui a marqué à côté des groupes, donc je le dis de tête. Il y a Les Malpolis, c'est la chanson française, c'est ce que je vais vous passer maintenant. Et il y a Vrac et il y a d'autres surprises. Donc c'est ce soir à partir de 19h. L'entrée c'est de 6€, 6h contre la délation et c'est au Vent du Sud. Et Les Malpolis, justement, je vais passer un des morceaux qui me fait hurler de rire, qui est absolument immonde et infect, c'est Swat Iskra Blues. Non, le titre du morceau, ça s'appelle Pauvre Petit Facho, un reportage à contre-courant pour une plongée en eau trouble dans le mal-être de nos pauvres petits amis, les électeurs néo-nazis. Supplément week-end, radio éphémère.
Tous les chanteurs ont un petit refrain à reprendre en chœur dans la salle, pour bien informer le citoyen de la menace du Front National. Après le concert, les petits nazis, vu ce qu'ils se sont pris dans les dents, rentrent chez eux, pleurent toute la nuit, ça doit pas les rendre plus marrants. Essuie tes larmes dans ton mouchoir, mon petit facho, dis-toi que c'est rien. Nous on va le chanter le cauchemar de ton triste petit quotidien. Dire ce que c'est en vrai la peur du noir, chaque soir quand tu te couches et que t'éteins. Puis ça renouvellera le répertoire de la chanson qui n'engage à rien. Car faut savoir que c'est pas de la tarte d'être un bon petit gars d'extrême droite. Ah non, vraiment, c'est pas de la tarte d'être un bon petit gars d'extrême droite. La boule à zéro, tous les matins, faut que tu te rases le crâne avec soin. Ça faut que tu te ruines en produits de beauté. Et le pire, c'est que tout ça, c'est rien que pour être laid. Le soir tabassé, des mecs casser du bouillon, à force de manier le manche de pioche, ça fait que t'as toujours les mains pleines d'ampoules. Aïe, ça y est, t'essaies de marcher comme ça, en claironnant les airs de la Wehrmacht. Mais t'es pas doué pour faire le pas de loi, ça ressemble plutôt à la danse des canards. Tu aimerais bien repeupler la France, mais de ce côté-là, t'as pas plus de chance. À force d'étendre le bras en l'air, comme un SS, pour faire coucou, il te faut gueuler bien fort Heil Hitler, pour baiser, sinon tu bondis. Chaque fois que tu trouves un cimetière sympa, où aller peindre des croix gammées, des petits branleurs ils sont passés avant toi, rien qu'histoire de faire comme à la télé. T'es trop jeune pour avoir connu la guerre, Tu te poses toujours la même question. Tu penses à ce qu'avait vu ton grand-père. Et tu te demandes si sous l'occupation, toi t'aurais eu le courage de faire le choix de la collaboration. C'est d'entendre dire les journalistes que parmi les électeurs de Le Pen, il y aurait plein d'anciens communistes. Encore que le pire à supporter, c'est depuis que musulmans et juifs se passent de toi pour s'entretuer. T'as l'air de quoi? Ça c'est pas sportif.
Les Malpolis qui seront en concert aux côtés de l'air de rien, Boom Club, Alive Sound System, les Bublis, Brassens Not Dead et Vrac pour 6 heures contre la délation ce soir au Vent du Sud. Verrez comment il astique amoureusement sa zapette. C'est limite indécent. Il fait des concours idiots comme compter le nombre de fois que passe en simultané Friends sur un nombre de chaînes. Son record c'est de 8, M6, AB1, France 4, TMC, ça va être très fort.
N'oublie pas RTL9.
Oui. Et Série Club. Du sport, c'est à toi, bien sûr.
Ok, je voulais commencer par le comic box, donc j'ai fait subir un petit visio-test à Thomas en face de moi, en ce qui concerne surtout la BD inédite, hein, comme dans chaque numéro de comic box. Donc, il y a une BD inédite, là, c'est Soul on Fire de Frank Turner. C'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Hein, graphiquement parlant, c'est bien, quoi. Moi, j'aime bien, quoi. Sinon, dans ce numéro, comme d'habitude, hein, beaucoup d'entretiens avec des personnes du monde des comics, pas mal d'articles de fond. Alors, au niveau des articles de fond, je vous ai repéré un article sur Superboy, un autre qui s'appelle Route 666, qui est consacré aux nouveaux héros Marvel qui sont un peu trash, genre Punisher, des gens comme ça, quoi. Hein, pas des bonbons, quoi. Il y a un article aussi qui a l'air assez intéressant d'un point de vue historique, qui parle d'une période où aux États-Unis il y avait une campagne de presse qui avait été lancée un petit peu partout et qui voulait faire des comics burning, quoi, à savoir tout le monde se ramenait avec ses comics,
des autos d'affé,
tu vois, puis balançait les trucs dans le feu, tu vois, dans la rue comme ça, quoi.
Faut savoir que depuis 15 ans il y a une attaque en règle contre le comics aux États-Unis qui est assez effarante. C'est que le fonds de soutien, le FBLD, le fonds de soutien aux vendeurs de comics aux États-Unis, dit que c'est effarant le nombre de gens dont la vie est détruite, tout simplement parce que leur seul tort c'est d'avoir ouvert un magasin de bande dessinée, parfois des grandes villes. C'est effarant.
Ça c'est pour les articles de fond, hein, sinon il y a les rubriques habituelles, hein, qui sont très très intéressantes avec les dernières nouvelles et tout ce qui concerne les films et tout ça, qui vont sortir, genre le nouveau 4 Fantastiques avec l'arrivée de Silver Surfer. Merde,
enfin, putain, t'as vu la bande annonce?
Hein,
t'as vu la bande annonce? C'est tout pourri, ça, Silver Surfer dedans. On dirait le
Bonjour, j'ai été peint la bombe.
On dirait le T-1000 de Terminator 2, mais à l'époque de 91.
Et alors Et alors sinon, c'est surtout aussi pour les interviews hein, que ce magazine interview est intéressant. Il y a un article In Memoriam, un des grands de la bande dessinée et des comics nous a quitté, Dave Cockrum, qui c'était ce mec-là. C'est un mec qui, dans le début des années 70, comme dessinateur, rentre chez DC Comics, à savoir hein, les concurrents de Marvel, ceux qui ont fait Batman, Superman et tout. Il crée sa propre bande qui s'appelait les Outsiders, un truc comme ça, quoi. Et bon, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop plu, les mecs... de DC l'ont plus ou moins envoyé chier et du coup il est parti dans les années 70, début des années 70 chez Marvel, donc chez les concurrents, et là bah, il a pu développer justement le renouveau des X-Men avec l'apparition de nouveaux personnages, personnages en fait qu'il a repris de ces personnages refusés chez DC, quoi.
Voilà.
Donc il a créé Colossus, il a créé aussi Nightcrawler, Diablo. Et
parce qu'au départ, les personnages de la première saison, si je peux dire, des X-Men, on ne les connaît pas parce que c'était les Américains, bien portants, blonds, etc. Et lui, justement, il a joué sur la mixité, la diversité, énormément. Et c'est tous ces personnages-là que l'on connaît.
Voilà,
les personnages d'avant, on les connaît pas vraiment, à part Professeur Xavier.
C'est lui qui a aussi donné l'identité de Wolverine, parce que Wolverine qui était apparu, mais uniquement sous les traits de Wolverine, et c'est lui qui lui donne l'identité de Logan, donc
voilà.
Aussi. Donc hein, c'est quand même un mec qui a un petit peu marqué. Hein. Il a pas fait que
comment
ça.
Il s'appelle,
il a pas
le fait mec, alors
Dave Cockrum.
D'accord.
Ok, né en 43, mort donc à la fin de l'année dernière. Hein. Il faut signaler également que comme justement dans le monde impitoyable de la bande dessinée et du travail aux États-Unis, les couvertures sociales sont pratiquement inexistantes si tu travailles plus ou moins en indépendant ou si tu es dans une petite boîte, hein, ou alors il faut payer
même,
vachement cher.
Même tout le monde est obligé.
Ce qui s'était passé, c'est que Dave Cockrum est mort, il avait le diabète, il est mort d'une pneumonie et tout, il a eu une très longue maladie, donc ça a coûté vachement cher. Il avait pas trop de couverture sociale et tout. Et Marvel a quand même fait un geste, parce que normalement, il faut savoir que n'importe qui a travaillé pour Marvel ou pour DC, c'est vrai pour les deux grosses boîtes, hein, n'est pas propriétaire, ne touche pas des royalties sur ce qui peut être sorti par la suite du travail qui a été créé par les différents dessinateurs, par les différents scénaristes. Hein. Il n'y a pas de royalties que dalle et tout. Hein. Ça reste la propriété de Marvel ou de DC. Tu vois un petit peu le truc quand même, quoi. Et donc Marvel a quand même fait un geste et ils ont fait un petit calcul approximatif des royalties que ça aurait pu lui rapporter pour lui payer justement un petit peu pas une retraite, mais enfin bon,
une pension,
une fin de vie, on va dire, un petit peu plus décente, et lui payer surtout les frais d'hôpitaux et tout ça. Donc ils ont quand même fait un geste à ce niveau-là, parce que bon, c'est quand même un des fondateurs, on va dire, hein, d'un certain pan de Marvel qui a disparu. Voilà. À part ça, il y a également Brad Meltzer, hein, Brad Meltzer qui a fait Green Arrow, Identity Crisis, la Justice League, mais que moi je connais pour avoir fait des scénarios à la télé, et il est également écrivain, il écrit également des bouquins. Donc il y en a plein d'autres, hein, on va pas s'attarder là-dessus, c'est nouveau. Numéro de Comic Box.
Et t'as vu qu'il y a une polémique en ce moment, puisqu'il y a le fabricant de jouets d'après Spider-Man qui a déjà dévoilé Venom dans sa boutique.
Ouais.
Parce que la pandémie, en fait, essaie d'en dévoiler au moins possible.
Ouais, ouais.
Et il y a déjà des fans qui crient au scandale sur Internet, parce qu'on voit que Venom, il a une langue toute petite par rapport à la BD, et il a une mâchoire beaucoup moins développée.
Enfin, et puis Venom, en plus, Venom qui a le costume du Dark
voilà.
Spider-Man.
Et donc, en plus, il a une silhouette de coureur de fond, donc qu'est-ce que c'est que ça, il est pas du tout musclé, c'est une hérésie, donc voilà, donc en ce moment il y a un gros débat par les fans de comics.
Ouais, ouais. Et on apprend également que dans Comic Box que Tobey Maguire n'a pas signé pour le Spider-Man 4, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura un Spider-Man 4, oui. Si c'est Tobey Maguire qui continuera à interpréter.
Déjà, ce sera pas Sam Raimi, puisqu'il a signé que pour les trois premiers.
Ouais, non, mais justement, quoi. Alors donc, Tobey Maguire, c'est pas rien, disons, non, pour
une
l'instant,
autre équipe.
On sait pas. Voilà, tout ça, donc, c'est dans Comic Box. Sinon, tu parlais de Jack Bauer, toi, avant. Bah, tu sais que s'il est demain soir sur Syfy, eh bien, lundi soir, il sera, je peux te dire où il sera, mais en chair en os, hein, attention, hein, c'est pas du flan, là. Hein. Il sera à Hollywood, bien sûr, au Beverly Hilton Hotel. Paris, elle est contente. Parce que ce sera la soirée des Golden Globes, lundi soir. Ah. Et ouais, c'est un petit peu, hein, c'est le début de l'année, donc aux États-Unis, ça commence à sentir, ouais, money, et surtout, distinction avec les Oscars. Dans un mois et demi, hein, c'est le 25 février. Et là, bah, les Golden Globes, en fait, c'est une espèce de répétition. En fait, c'est organisé par l'Association de la presse étrangère de Hollywood, hein, qui remet donc des prix, mais aux deux catégories d'écran, petit et grand écran, hein, à part égale. Donc, c'est pour cela que c'est aussi intéressant pour la télé. Alors, du côté des films, bon, bah, il y a deux films qui sont largement favoris, c'est Babel Les Infiltrés, Babel de Iñárritu et Les Infiltrés de Scorsese. Babel, 7 nominations, dont Brad Pitt en second rôle, et Les Infiltrés, 6 nominations, dont DiCaprio pour le meilleur acteur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que DiCaprio, il est nommé deux fois meilleur acteur pour deux films différents. D'ailleurs, dans le film des Infiltrés, meilleur acteur nommé, et également dans le film d'Edward Zwick, Blood Diamond. C'est assez intéressant aussi. Et aussi
Blood Diamond, d'ailleurs, c'est en fait c'est l'histoire des diamants de sang en Afrique alimentant le trafic d'armes. Donc c'est en fait en écho à Lord of War.
Voilà, il y a également des petits trucs un petit peu incongrus, genre sont nommés pour le meilleur film en langue étrangère, Mel Gibson et Clint Eastwood. Mel Gibson parce que Apocalypto est en maya et que Lettre d'Iwo Jima de Eastwood est en japonais. Hein, voilà. Donc voilà, ceci. Et bon, ça c'est pour la partie cinéma. Et bien sûr, il y a la partie télé avec les Golden Globes et le gros duel. Alors c'est en première page de télécable satellite. C'est Patrick Dempsey contre Jack Bauer. Mais il faut pas oublier les autres séries. Il y a également pour le rôle du meilleur acteur dans une série dramatique. Outre ces deux-là, il y a également Hugh Glory, bien sûr, pour Doctor House, géant, magnifique, fantastique. Également Bill Paxton pour une série qui n'est pas encore diffusée en France. Donc, faut faire gaffe. Hein. Il y a également, bien sûr, les meilleures séries. Alors là, bien sûr, ça va être du Lost. Enfin, tu vois les gros trucs. Hein, il y a pas de problème. Bon, on vous en dira plus samedi prochain certainement. La soirée est diffusée en direct sur Paris Première, c'est lundi prochain à 2h du mat. Alors bon, c'est Paris Première, donc on peut se dire que ce sera un petit peu moins chiant, ils parleront moins pendant les commentaires des mecs, tu sais, ou pendant les discours des mecs et tout quoi, je comprends rien mais c'est pas grave, je fais semblant de traduire, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi qui font vraiment chier parce que t'entends pas la moitié de ce que disent les gens. Et puis bon, c'est un petit peu gênant parce que c'est plus intéressant que les commentaires généralement. Commenté par Thierry Chaise et Cécile Cassel. Donc c'est lundi soir, les Golden Globes sur Paris Première. Sinon, du côté de docu, je vous ai pécho un truc intéressant. Comme là, on est passé 13h sur Radio FMR. Eh bien, c'est l'heure du foot le samedi, l'heure du sport. Et mardi prochain, sur Arte, une série de documentaires consacrée à l'argent du foot à partir de 20h40, 20h45, ça
commence. Je crois qu'ils l'ont déjà diffusé.
FIFA, du foot au fric, hein, c'est un documentaire aidé par la grosse enquête qu'a menée Andrew Jennings, et tiré du bouquin qu'il a sorti l'année dernière, hein, qui s'appelle FIFA, du foot au fric. Ensuite, c'est suivi à 21h30. Du match des marques, Adidas, Puma, et c'est Puma qui a gagné, le petit contre le grand, t'as vu ça, hein. L'équipe d'Italie était en Puma, quoi. D'ailleurs, c'était une nouveauté, hein, l'équipe d'Italie qui a été très longtemps avec des marques italiennes, à savoir Lotto ou Kappa, et là, qui s'était vendue à une marque étrangère, déjà pas italienne, et en plus, même pas un des gros, même pas Nike ou Adidas, non, le petit Puma, tu vois, l'outsider, hein, celui qui fait le Cameroun, les nations africaines et tout.
Oui, les maillots qui sont jamais homologués. Là.
Voilà, les maillots homologués du Cameroun. Voilà, Puma, donc, et c'est Puma qui l'a emporté, hein. Eh ouais, grâce à un coup de boule. Merci. Merci. Puma dit merci. Et c'est suivi à 22h10 d'un autre, excusez-moi, documentaire qui s'appelle L'Intouchable 2004 et qui est consacré à un homme qui s'appelle Joe Blatter, qui est le président de la FIFA et qui est suisse en plus. C'est pour te dire. Sinon, c'est complètement mélangé. Alors, du nouveau dans les séries.
Avec... Vous êtes sur FMR, c'est normal.
Alors je bois un petit coup. Le retour de David Boreanaz.
Oui. Angel. Ma Sabrina m'a dit ça ce matin, elle m'a dit Angel. Oh, je l'ai vu dans une série, c'est Angel, il est trop
Angel,
beau.
Ouais. Et là, il s'agit d'une série qui bien est nettement plus empreinte de réalité, on va dire. Il s'agit de la série Bones, les os, donc, et dans laquelle David Boreanaz incarne un agent du FBI qui fait partie d'une équipe qui est chargée de résoudre des enquêtes, mais l'originalité c'est que on s'attarde sur les détails techniques, un petit peu comme CSI. Là, c'est des détails techniques un petit peu plus basés sur l'anthropologie, sur l'entomologie, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc, des petits domaines qui sont un petit peu évoqués de temps en temps dans le CSI et dans ces genres de séries, mais vraiment comme petits détails, genre, ah ouais, ouais, il m'a ramené l'échantillon de machin et tout, et puis hop, t'as un mec qui revient avec une feuille de papier et un sachet, ouais, c'est bon, j'ai le résultat de tes tests, et bon, ah ouais, tu vois, je te l'avais bien dit que c'était l'autre et tout, quoi, grâce au résultat des tests. Et là, bon, on s'attarde un petit peu plus sur le boulot de ces gens-là. Alors donc, David Boreanaz, dans cette série, est agent FBI. À ses côtés, il a Emily Deschanel, ah oui, qu'on avait vu dans la saison 3 de New York Unité Spéciale, et qui joue le rôle de l'anthropologue médico-légal. Tu te rappelles le bouquin que je t'avais prêté, là, du mec, là, la ferme énorme. Des corps?
Oui.
Eh ben voilà, c'est ce métier, c'est ce boulot-là, là, tu vois, c'est ce boulot. Donc, il y a également Eric Milligan, qui joue le rôle d'un étudiant surdoué. Il y a Michaela Conlin, qui joue le rôle de l'informaticienne. Alors, je sais pas si t'as remarqué dans les nouvelles séries, il y a toujours un petit peu l'informaticienne, c'est toujours une nana qui est dans l'équipe informaticienne. Hein, tu regardes dans Esprit criminel avec Mandy Patinkin, t'as la nana, elle a tout un truc, les ordinateurs, elle sort pas de son bureau et tout, elle a organisé sa vie. Elle a 6 claviers ou 10 claviers, tu vois, et puis c'est elle qui est chargée de l'informatique. Dans Regenesis, Maiko, elle fait également les trucs d'informatique et tout. T'en as plein comme ça. Dans NCIS, la nana, piercée, tatouée de partout et tout, c'est elle qui fait spécialiser de l'informatique, tu vois. Hein, si c'est pas un hasard, ça, je sais pas. Alors, il y a également, outre donc cette informaticienne de Bones, T.G. Tyne qui joue le rôle de l'entomologiste et Jonathan Adams, lui qui chapeaute tout, c'est le directeur. Et comme d'habitude, il est black, c'est normal, les patrons black hein, dans les équipes de police. Maintenant, c'est pratiquement traditionnel. Il y a que dans... j'allais dire, il y a que dans New York District. Non, c'est pas vrai, puisque bon, il y a la nana qui est black, qui est capitaine, qui a remplacé Kragen, lui, Dan Florek, qui est parti sur New York, qui était spécial. Hein, donc c'est le seul patron de police qui est pas black, quoi, tu vois. Bon, ok. 3 épisodes, donc vendredi prochain, 3 fois Angel de suite, avec le pilote pour commencer. Alors, comme c'est quand même un petit peu du fouillé, du recherché, je veux dire, il y a des petits détails un petit peu, bon, pas forcément croustillants vu l'état des cadavres, mais... gluant, on va dire, bah. liquide.
Donc, je rappelle à nos amis auditeurs qui passent à table, bon appétit.
Donc, ils sont tous catégorisés minimum moins 10. Hein. Alors, le pilote, le prix de la vérité, moins 10. Ensuite, faux frère, moins 10. Et le dernier, troisième partie de soirée, un homme bien est moins 12. Donc, hein, pour cette nouvelle série sur M6, c'est vendredi prochain à partir de 20h50. Et c'est d'ailleurs M6 hein, qui fait très très fort, parce que cette semaine, il y a pratiquement que qui sortent de la nouveauté, de l'inédit ou de la nouveauté, avec ce soir direct à 20h50 la nouvelle saison des 4400. Hein, ça te dit rien?
J'aime pas.
Bon, ils accrochent pas, moi non plus. Ok, on est 3 à pas accrocher. Moi, ma femme, elle aime bien, quoi. Alors, bon,
donc, c'est elle qui te l'a marqué sur le conducteur.
Non, mais bon, il faut dire que quand même, c'est de la série, de la mini-série, on va dire, haut de gamme, hein, avec une pléiade d'acteurs reconnus. Il y a même Tippi Hedren, pour vous dire, hein. Peter Coyote, Laura Allen, enfin bon, n'en jette plus, hein, ça suffit. C'est bon, c'est quand même de la série haut de gamme, hein. Bon, après, c'est le thème, c'est le sujet, hein, qui peut-être est pas trop intéressant. Enfin bon, ça, c'est une question goût tout à fait subjective. Les 4400, c'est ce soir à 20h50 sur M6 pour un épisode double en fait, hein, qui s'appelle Nouvelle Ère, deux épisodes qui racontent la même histoire, mais c'est suivi par de la vraie nouveauté inédite complète sur M6. On l'attendait depuis pas mal de temps en fait, hein, ça devait être diffusé à partir de septembre, enfin bon, ils ont reculé un petit peu peut-être pour mieux sauter le pas, c'est normal. La série s'appelle Threshold, le pas de porte, elle est bonne, hein. Threshold, premier contact, non, elle est pas bonne, bon, tant pis. À 22h30 ce soir sur M6.
Ah, Threshold, d'accord.
Threshold. Ouais, c'est vachement dur parce qu'il y a deux H qui se suivent, tu sais, quoi. Alors bon,
Threshold.
Avec le troisième après le T au début, là, tu vois, c'est trois H dans le même mot, quoi. Tu te rends compte? Ah, c'est anglais. Épisode double, hein, qui s'appelle Les Arbres de Verre, avec, là aussi, bon casting quand même, William Potter, Carla Gugino et Brent Spiner qui joue le rôle de Data dans Star Trek Next Generation.
Carla Gugino dedans?
Ouais. Quoi? Pff,
Ah bah non, elle est bien quoi.
Bah ouais, ouais, bah ah. Justement quoi, tu vois. Bon bah OK hein. Et bon bah OK, c'est une nouvelle tendance dans la nouvelle génération, savoir le retour avec les envahisseurs, les extraterrestres et tout. Donc premier contact, threshold, le pas de porte. Attention, ils sont là, mais où sont-ils? Bah ils sont sur le pas de la porte à Calouri. Tout ça donc ce soir à 22h30 sur M6. Dans Secret d'Héritage, c'est ce soir,
oh
également
non.
Sur Canal Jimmy, 20h45. Trois épisodes, comme d'habitude, comme tous les samedis, donc, de cette série soap hollandaise. Le premier épisode s'appelle Coup de théâtre. Alors, Flo, elle a pas encore accouché. Non. Elle a pas encore accouché, mais elle est quand même ravie parce que, bah, elle se rapproche petit à petit de Dan, hein, qui lui a bien pourri la vie durant la première saison, mais là, bon, bah, ça va un petit peu mieux. Le deuxième épisode s'appelle Adieu Beth.
Je suis écœuré, j'ai même pas le bon fond pour ça.
Mais il faut faire un jingle, bordel. Ça fait un mois qu'on le dit.
Ouais.
Attends, j'ai trouvé. Ouais, vas-y, continue.
Le deuxième s'appelle Adieu Beth. Alors, bon, y a pas de jeu de mots. Hein, parce que Beth, en fait, est la belle-mère hein, des trois sœurs de Witt. Et en fait, elle était partie parce que, bon, bah, elle était plus ou moins à l'origine, enfin elle a été utilisée dans un espèce de complot qui tentait à déstabiliser les trois sœurs lors de la première saison, hein, dans leur entreprise de remise en état justement de la boîte, de la laiterie, hein, elle a également hérité hein, d'un tiers quoi, quand même de la fortune de classe de Witt, hein, donc c'est pas rien. Mais bon, elle avait disparu un petit peu, on la voit pas en début de deuxième saison, c'est parce qu'elle s'est foutue en retrait en fait, parce que ben il y a l'autre personnage matriarcal qui apparaît, la vraie mère, la mère biologique, hein, qui revient après avoir largué ses enfants très jeunes, elle est partie en Inde, puis elle s'est installée aux États-Unis, enfin tu vois, babose complet quoi en fait, hein, complètement babose, elle revient, s'installe dans une maison et tout, elle cultive ses petites plantes un petit peu partout, tu vois, c'est pour ça, c'est pour guérir, et puis là...
Mais tu regardes vraiment en fait?
Bah ouais, bien sûr.
Je crois que tu lisais un texte.
Mais sinon je pourrais pas te dire tout ça quoi. Franchement quoi. Ah là franchement hein, Et le troisième qui m'a l'air d'être le meilleur en fait hein, qui s'appelle Le Couple Idéal. Et c'est encore une histoire de Paula. Alors Paula c'est la fille de Rose et de Gert. Et c'est la nana qui alors là dans cet épisode elle va tomber sous le charme d'un autostoppeur. Tu m'étonnes. Parce que déjà au départ Paula elle commence par faire du vouloir s'émanciper à l'âge de 16 ans. Elle commence par faire du striptease dans un club. Puis elle part avec le patron se marier à Las Vegas. Le patron, c'est un fan d'Elvis, tu vois. Alors, un mec, il revient dans le costume d'Elvis, costume de mariage. Un petit peu plus tard, elle commence à le tromper avec un mec qui s'avère être un mec qui essaie de la faire tourner dans des films porno. Et là, elle tombe sous le charme d'un autostoppeur, ça va encore donner. Donc, c'est ce soir dans Secret d'Héritage. Ça, c'est Paula, hein, de toute façon, quoi, tu vois. Parce que le frangin Oliver, hein, le fils donc de Rose et de Gert, le frangin de Paula, un petit peu plus grand, hein, il a 17-18 ans, il va passer son bac, hein, très bon informaticien, mais enfin branleur fini quoi. Et lui, il est un petit peu en retrait également dans la deuxième saison. Par contre, Paula, elle, il n'y a pas de problème, elle y va à fond les manettes. C'est réjouissant quoi. Donc, Secret d'Héritage ce soir à 20h45 sur Canal Jimmy avec trois épisodes avec donc Eva Duyshen, Duyvesheim, CDC hollandais, c'est quand même vachement difficile. Hein. Angela Schiff et Frédéric Hoyt, voilà. Demain, de la nouveauté également. Et là, c'est comme c'est TF1 qui a acheté la série et que c'est TF1 qui diffuse, c'est en catimini, on s'en fout, ça bouche la place. C'est juste après Walker Texas Rangers le dimanche après-midi et puis c'est pas mal. C'est une série qui peut être intéressante. Elle a duré 13 épisodes sur la chaîne américaine Lifetime, puis cause d'audience suffisante, ben, elle a été arrêtée. Ça s'appelle Angela's Eyes, encore une vision un petit peu particulière, une façon de voir un petit peu particulière le métier de flic du FBI. C'est interprété par Abigail Spencer, qui joue le rôle d'une nana qui n'a pas son pareil pour dénicher les gens qui mentent, quoi. Et donc ça lui permet professionnellement bah, de niquer la tête à tous les gens qui essaient de lui monter des plans foireux. Elle les a, et puis mais par contre ça lui occasionne certains problèmes dans sa vie personnelle. Angela Size, donc c'est demain sur TF1 à partir de 14h15, donc après Walker Texas Rangers. Sinon il faut savoir que au niveau des séries de TF1, y en a une qui avait été diffusée un petit peu dans les ordres également le dimanche après-midi, mais on pouvait également la voir très tard le samedi soir, après les deux épisodes de New York Special Unit, c'est-à-dire vers 1h du matin, tu vois. C'est New York Cour de Justice, en fait, oui. Une nouvelle série de Dick Wolf qui a pas marché, qui s'est arrêtée au bout d'une saison, mais qui est quand même relativement intéressante.
Qui est une suite, d'ailleurs, c'est le même générique et la même présentation.
C'est toujours le même thème, hein, c'est toujours le même thème, c'est mais chaque fois réorchestré, hein, avec des thèmes, une variante un petit peu spéciale pour chaque déclinaison de New York Law and Order. Et là, dans celle-là, on retrouve Bébé Neuwirth, Amy Carlson, Kirk Acevedo et Scott Cohen. Alors, le thème est un petit peu différent parce que ils reprennent, en fait, des histoires qui ont été jugées, ou des affaires qui ont été jugées. Mais il y a des éléments nouveaux qui surviennent, donc il faut rejuger, l'affaire. Donc, c'est pour ça que ça fait réintervenir, bon, au départ, les gens du tribunal, mais également les policiers, interprétés par Kirk Acevedo et Scott Cohen. Donc, tout ça dans New York, Cour de Justice, c'est diffusé, eh bien, sur TV Brise. Ouais, Patrick Lelay, la chaîne de Patrick Lelay, mon gars. Et par contre, c'est pas en breton.
Chapeau breton,
c'est pas en breton.
Dans ma télévision,
c'est en français, mais c'est en prime time demain soir à partir de 20h50 avec 3 épisodes. Lumière, un moins 12 quand même, à 20h50, ça va le faire. Un sinistre personnage, ensuite, est 41 balles. Celui-là, je l'ai vu, il est vachement bien. Donc, tout ça, c'est New York Cour de Justice demain soir sur TV Brise. Sinon, il y a encore, bien sûr, Regenesis lundi sur Arte. Je sais pas si vous avez vu, là, lundi, là, les deux premiers épisodes. Bah, ouais, ça pète.
J'ai vu, il y a un épisode où ça se finissait au tout ralenti dans une salle qui devait être hermétique parce que le mec, il s'est fait contaminer.
Voilà, il s'est
fait. Et j'ai tombé sur ça, j'ai vu 5 minutes, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air vachement bien,
parce
monté,
juste avant,
et tout,
mais juste avant, ce que t'as loupé, hein, c'est l'histoire vachement trash. C'est une histoire vachement trash, quoi, parce que bon, bah, c'est une nana et son gosse qui, la nana, elle, a aidé dans des dispensaires, des malades du sida en Afrique, donc elle revient avec un virus Zarbi. En fait, c'est un virus qui a été trafiqué, on sait pas par qui, qui mélange deux virus, le Ebola et un autre, ce qui fait que bon, bah, ils arrivent pas à trouver de remède, y a pas de remède et tout, quoi. Et en fait, juste avant que David Santrum, le mec que t'as vu qui est le patron du truc, le héros hein, interprété par Peter Dinklage, ne se fasse contaminer, justement, se retrouve à l'intérieur de cette bulle de verre, hein, de cette bulle plastique, c'est parce que ben il est allé voir la nana. La nana étant porteuse saine pouvait continuer à vivre, mais le bébé étant le patient zéro devait rester à l'abri jusqu'au restant de ses jours à l'intérieur d'un truc et tout, et donc la mère devait se séparer de son gosse et tout, et bon, le truc bien trash, enfin bien les boules, tu vois. Et puis bon, il se passe que la mère elle commence à péter les plombs, à vouloir tuer le gosse, quoi, tu vois, de sacrifier plutôt que de qui vivent dans un établissement de soins jusqu'à la fin de ses jours. Et le mec justement tente de l'empêcher, et c'est là que bon, bah, il se fait couper avec le couteau, donc voilà, quoi. Mais dans l'épisode de lundi, le premier épisode de lundi, le visage de Dieu, eh bien on apprend que Sandstrom, finalement il n'est pas contaminé, mais enfin il va passer tout l'épisode dans la bulle. D'ailleurs c'est vachement rigolo, et tu diriges tout le truc de l'intérieur de son truc, quoi. Hein, à un moment, bon, il commence quand même à être sérieusement malade, tu vois. On commence à se dire, oulala, c'est pas top, quoi, tu vois. Mais bon, je peux te dire qu'il s'en tire quand même, quoi. Et c'est surtout le deuxième épisode qui est aussi pas mal, parce que bon, bah, dès le quatrième épisode, en fait, hein, qui s'appelle Le Fantôme d'Ira, et bien l'un des personnages principaux, l'un des personnages de l'équipe, meurt à la suite d'une fusillade perpétrée devant le labo, à la suite d'une manifestation, parce que il y a une histoire de clonage de d'ovules et de trucs comme ça et tout, et donc il y a une manifestation des fervents du Christ et tout, qui vient, non, on peut pas, tu vois, interférer sur la volonté divine, enfin des trucs comme ça et tout, quoi. Et donc là il y a Ira, donc qui est la virologiste de l'équipe, qui est irakienne d'origine, ce qui fait que bon, elle a quelques problèmes pour entrer dans certains endroits du labo et tout, quoi, tiens, parce qu'elle est irakienne. Ah ben elle crève dans cet épisode, donc ça plombe bien.
C'est bien le spoiler aujourd'hui.
Ouais, non, ça plombe bien. Non, mais la série a déjà été vue et revue. Je veux dire, elle diffusait en même temps le même soir sur Syfy, qui nous passe en même temps la saison 2 en ce moment. Hein, donc bon, bah ok, il n'y a pas tellement de spoiler à voir, hein. Sinon il y a la bonne surprise, bah c'est toi qui va être content, c'est The Unit qui est à nouveau rediffusé
Ouais, depuis le début, elles vont en prendre plein la gueule, les femmes de soldats.
Ben, depuis le début, comme ça, tu vas pouvoir voir comment ça commence. Comment ça, en fait, c'est l'intronisation, c'est l'entrée de Scott Foley, hein, le mec qui joue Bob, et de sa femme, jouée par Leslie Bibb. Hein, ça raconte son histoire, son entrée dans The Unit, hein, c'est le commandant des forces spéciales dirigé par Dennis Eisbert, par Delta Force. Ouais. Qui sont pas chapeautés par Robert Patrick, c'est le patron, il y a Dennis Eisbert.
Et ça change de Chuck Norris, hein, je vous rassure de suite.
C'est pas mal, c'est une bonne série quand même, quoi. Bon, des fois c'est un petit peu tangent, quoi, au niveau des motivations des gens. Enfin bon, c'est ricain, quoi, ça reste ricain, hein, de toute façon, mais c'est quand même bien foutu, quoi. C'est donc mercredi prochain sur M6 en deuxième partie de soirée à partir de 22h30. On termine avec du ciné. Alors, ça tombe bien, hein, je suis à la bourre, mais je vais pas mettre trop de temps parce que moi, bon, j'ai pas eu le temps de tout préparer vu que j'étais hyper à la bourre, hein. Je suis parti, j'étais encore en train d'écrire, il était midi, tu vois. Alors, un petit peu de ciné vite fait avec des films comme ça, y a du Takashi Miike,
ouais,
c'est demain soir sur Canal Plus Cinéma, la soirée. On en avait parlé à propos des Master of Horrors, du fait que le Takashi Miike et Master of Horrors ne pouvaient pas être diffusés par Canal dans la même continuité que les autres, à savoir dans la case du vendredi soir, très tard le soir, parce que bon, même c'était trop hard, tu vois. Et ils se sont dit, on va faire une soirée avec demain soir sur Canal Plus Cinéma, attention, hein, à 20h50, le film Audition. Pour commencer, hein, histoire de se mettre en bouche,
oui,
tu vois,
avec les jambes sciées au fil à découper les
ouais,
la viande,
ouais. Tranquille, c'est... tranquille.
Et puis les yeux nucléés, tout ça.
Normal. À 23h, donc, le Master of Horror, la maison des sévices, avec Yuki Kudo, Michi Ito et Billy Drago, qui paraît-il en fait des tonnes que, moi j'ai vu quelques extraits, hein, sur Ciné Plus. J'en ai vu quelques extraits, vraiment, il a l'air un petit peu chiant, Billy Drago, quoi. En faire des tonnes comme ça, tu vois, quoi. Vraiment, bon, enfin, bon, il est plus cadavérique que jamais. Bon, ok, hein, c'est Billy Drago quand même, quoi. Tu vois, et donc, mais c'est le Takashi Miike, donc c'est demain soir sur Canal Plus Cinéma. Sinon, ce soir, il y a deux petites. Alors, il n'y a pas de thème, pas thématique, hein, pour les films que j'ai choisis. Avec ce soir, eh bien, tu as regardé The Big Doll House. Tu n'as pas encore regardé Pam Grier, hein. Eh bien,
ah, pas encore, non.
Non, c'est un petit peu dommage. Ce soir, un film de. Qui l'a rendu un peu plus célèbre, hein, que les films de prison, de femmes en prison, c'est Kofi, la panthère noire de Harlem, qui est diffusé ce soir sur TPS Home Cinéma, un film de Jack Hill de 74 avec Pam Grier dans le rôle principal et Booker Bradshaw, où ça raconte c'est l'histoire de Pam Grier, dont sa sœur, elle crève d'une overdose, et donc elle va se venger du dealer. Tu vois, et c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et puis elle est bonne. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Et ça, c'était naturel en plus, tu vois, quoi. 100% naturel, quoi. Et un peu plus tard ce soir, un film pour vraiment se poiler, se fendre la gueule à fond les manettes, c'est sur TPS Ciné Club, c'est les producteurs, la version originale de Mel Brooks de 67 avec Zero Mostel, Gene Wilder et Kenneth Mars. Alors c'est le meilleur Mel Brooks, j'ai pas honte de le dire, hein. Pour moi c'est le meilleur Mel Brooks, il est devant Frankenstein Junior, si c'est vrai, c'est pas des conneries. Et donc c'est ce soir sur TPS Ciné Club à 23h20. Lundi, spécial dédicace, film spécial dédicace à Fraisière, Anatomie. C'est sur M6 à 23h de Stéphane Ruzowitzki avec Franca Potente, la belle Franca Potente, et Benno Fürmann, qui est également un des bons acteurs de l'autre côté du Rhin. C'est sur M6 à 23h. Anatomie.
Là, je vais te la faire manière Fraisière. Je te savais pas bi du sport.
Je savais pas quoi?
Ben non, mais c'est rapport à la trépanation. un peu plus tôt dans la soirée lundi, un film qu'on a tous vu et qu'on a tous rigolé et tout, quoi. C'est normal parce que c'est interprété par Sacha Baron Cohen. C'est avant Borat, c'était Ali G, donc c'est sur TPS Ciné Family lundi prochain à 20h45. Ouais, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo.
Ah, si t'as envie, on se le loue virtuellement.
Ouais,
c'est une soirée.
Ouais. Hein. Mercredi, par contre, il y a du lourd avec une soirée Lucio Fulci. Ouais, sur Ciné Cinéma Auteur. Trois films du maître de l'horreur avec à 20h45 L'Emmurée Vivante avec Jennifer O'Neill. Ouais. En 77, 1-12, suivi à 22h25 de L'Éventreur de New York, 1-16 avec Jack Hedley et Almantag Keller. Et suivi à minuit de La Malédiction du Pharaon. Encore un Lucio Fulci. Donc tout ça, c'est mercredi soir sur Ciné Cinéma Auteur. Et mercredi prochain également, ben, sur Sci-Fi, un bon film qui se laisse, moi, chaque fois que je le revois, c'est avec plaisir. Bon, il y a quelques longueurs, c'est sûr, mais il y a quelques moments d'anthologie dans ce film. J'ai bien entendu parler du Gremlins 2, qui est vraiment plus trash que le 1, il faut le dire.
Et bourré d'illusions cinématographiques.
Des allusions que tu ne crois pas et tout, hein, avec Zach Galligan, enfin bon, le personnage principal du 1, et John Glover dans le rôle du méchant. Hein, John Glover, Lionel Luthor, le papa de Lex Luthor dans Smallville.
Ah, il était déjà dans Gremlins 2. Ah, je savais pas.
Oui, il joue le rôle du méchant. Alors attention, il dépote. attention, quoi. Il joue le rôle d'une chaîne de télé, un truc comme ça et tout. Il y a une satire incroyable de la télé dans de ce Gremlins 2. Enfin, c'est un vrai bonheur. Il y a pas avec le Gremlin araignée là qui est monstrueux là.
Ah, je préfère le Gremlin Batman.
Ah ouais, mais moi j'aime bien le Gremlin araignée, quoi. Il est bien bien heavy et tout, quoi. Donc tout ça c'est sur Syfy mercredi prochain à 20h50. Donc sur Syfy, ça veut dire version multilingue, hein. Donc on peut le voir en VO. Et c'est tout, hein. Donc je me suis arrêté à mercredi. Tu
et Hulk Hogan, t'as oublié. Eh oui, il y a Hulk Hogan.
Où ça?
Pendant la coupure. Ah! Tant pis, tu ne le sauras pas.
Non, non, non.
C'était le supplément week-end numéro 98. La semaine prochaine, on détruira ce décor qui commence à sentir un peu le moisi. Ces jingles, on va les exploser. On va les massacrer. Et ce sera d'ailleurs l'année. Ce sera une version apocalyptique d'ailleurs du supplément week-end. Mais en attendant, résumons pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission ce qui s'est passé depuis le début. Thomas, s'il te plaît.
Eh bien, il y a eu un quiz top 5 sur les parrains au cinéma, de la BD japonaise, de la BD horrifique Riken. On a eu du téléfilm fantastique avec des saints. Oui. On a eu le résumé de la semaine de Secret d'Héritage et du sport qui nous a spoilé, qui nous a raconté la fin des épisodes de Regenesis.
C'est super sympa, je voulais me le faire. N'oubliez pas que cette émission est disponible en podcast et que vous pouvez réécouter pratiquement toutes les émissions de Supplément Week-end sur le net. Vous cherchez Supplément Week-end, radio, FMR et MP3 ou podcast. Ou sinon, vous allez sur le site internet radio-fmr.net. Vous cherchez Supplément Week-end, ça allez tomber dessus. Et puis aussi sur nos fiches écrites sur les BD, les films qu'on chronique, des fois et ben on les met en fiche et vous pouvez commenter derrière. Et ça, vous pouvez le retrouver sur pataphysique.net, pataphysique.net.
Ce qu'il y a de bien, c'est que aussi on parle de grosses merdes aussi. Et ça peut être assez rigolo de mettre des commentaires sur des grosses merdes.
Ouais, ouais, ouais. Et je tiens aussi sur pataphysique, il y a quelqu'un qu'on aimerait bien avoir, c'est Pibesan.
Oui, Yannick, si tu nous écoutes, on aimerait bien t'avoir dans notre émission.
Ouais, voilà. Et puis il y en a plein d'autres, hein, tous ceux que j'oublie. Et puis tout le reste, voilà. Ciao, see you. La semaine prochaine, sur cette même antenne, à midi pour la destruction des 100 premières émissions et la suite des programmes, scène transmission à 15h, 16h le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h la Cétéro expérience, 21h30, stay tuned. Mais de suite, ça c'est du sport. Ciao, bye, see you.
Ciao.